Bonjour Jérémy, bonjour Romain. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Cryptos pour une nouvelle interview. Vous travaillez pour Ingenico. Vous allez nous présenter ce que c'est qu'Ingenico parce que c'est vrai que c'est une société assez utilisée et pourtant très méconnue du grand public. Vous allez nous détailler tout ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer ce que vous faites pour Ingenico?
En tout cas, merci de nous recevoir. Donc, moi, c'est Jérémy Richesse, donc je travaille au sein de la cellule innovation du groupe Ingenico, donc on appelle Ingenico Labs, et je suis chef de projet innovation et j'ai notamment travaillé sur le projet crypto.
Et donc Romain Collet, donc enchanté. Je travaille également donc dans le lab d'innovation d'Ingenico. Moi, je suis en charge de tout ce qui est business développement de l'innovation, pour le groupe. On est une équipe d'une trentaine de personnes. Et en fait, on est en charge de ce qui s'appelle l'innovation disruptive, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être un produit d'ici 3 à 5 ans. Et je travaille avec Jérémy également sur le projet crypto. C'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant un an et demi. Donc nous, nos missions, en fait, c'est de disrupter la concurrence avant que la concurrence nous disrupte. Et donc Ingenico, c'est quoi? C'est une société qui est leader mondial des terminaux de paiement. Donc en fait, on a une marque, comme tu l'as très bien mentionné, qui est inconsciente. C'est-à-dire que quand on dit Ingenico, généralement, les personnes vont dire, oh, ouais, je vois pas. On est absolument partout, 160 pays. Nous, on travaille sur une vingtaine de projets par an, à peu près. Donc, ces projets, l'idée, c'est on va commencer, on va partir de ce qui s'appelle l'idéation. Ensuite, on va essayer de trouver des partenaires. On travaille sur ce qui s'appelle l'open innovation. On n'est pas les meilleurs sur tout. Donc, on va prendre les meilleurs dans leur catégorie pour nous aider à résoudre ce qu'on appelle un business problème, c'est-à-dire un sujet qu'on veut amener d'une manière innovante. Donc Binance, avec qui on a fait un partenariat, est arrivé dans ce cadre-là. Donc notre équipe de 30 personnes, on a un tiers, c'est de la recherche avancée, ça va être des docteurs de Normal Sup essentiellement. Un tiers, c'est une équipe. L'autre tiers, c'est une équipe technique. Donc, ça va être des ingénieurs qui, quand on part d'un sujet, vont créer des choses fonctionnelles. Donc, ça peut être une solution digitale ou bien physique, hardware. Et puis, donc, le dernier tiers, ça va être l'équipe business développement et marketing, pardon. Tous ensemble, on va créer ces projets pour ensuite les pousser à nos business lines. Qui vont ensuite industrialiser, donc scaler, s'appelle en termes techniques les projets. Voilà.
Ok. Et donc, tu évoquais justement le processus pour vous, pour essayer d'aller travailler sur des nouvelles manières d'appréhender le paiement. Vous avez commencé à travailler sur les crypto-monnaies il y a quelques années. Vous avez décidé de choisir Binance Pay comme meilleur moyen de vous accompagner dans ce projet. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce partenariat qui a eu lieu du coup en février dernier et qui depuis est en place dans plus de 150 pays dans le monde, c'est ça?
Ouais, juste une petite clarification avant. En fait, il faut savoir que Ingenico a commencé à travailler dans les cryptos, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Et en fait, il y a un premier partenariat dans la crypto qui a été noué avec une société qui s'appelle PundiX. Donc, pareil, en fait, pour accepter les paiements en crypto. Donc, c'était principalement sur la zone Asie avec un deal qui avait été signé à Singapour. Et donc en fait, comme l'a dit Romain, on travaille sur ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc on va essayer de détecter des signaux faibles pour justement essayer de les exploiter pour voir comment on pourrait répondre à ces signaux faibles en développant des solutions. Et donc aujourd'hui, si tu veux, les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est deux cas d'usage principaux qu'on connaît tous. Donc ça va être l'investissement et ça va être la valeur refuge. Donc j'achète des crypto-monnaies pour protéger mes actifs. Donc typiquement dans les pays avec de l'inflation assez élevé, donc comme en Argentine où je crois que c'est 100% d'inflation sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Et en fait, on s'est rendu compte en analysant le sujet qu'il y avait une demande de la part du marché, donc une demande de la part des porteurs de crypto, mais également des marchands, d'avoir un nouveau cas d'usage qui serait du coup le paiement en crypto. Et donc en fait, de là, on a commencé à discuter un petit peu avec l'écosystème. Et on a du coup engagé des discussions avec Binance. Et en fait, ça s'est fait naturellement avec Binance dans le sens où eux avaient plus ou moins la même vision que nous, qui était du coup de débloquer ce cas d'usage sur le paiement. Et c'est donc comme ça qu'on a débuté les premières discussions avec Binance il y a environ un an et demi. Et à la suite du coup de ces discussions, on a du coup fait un premier pilote qu'on a déployé en France. Donc aujourd'hui, dans Paris, il y a deux commerçants qui acceptent le paiement en crypto. Et pour le moment, les retours qu'on a sont très positifs.
Ok, Donc pour l'instant, ce n'est qu'un projet pilote. En tout cas, ça n'a pas été déployé à grande échelle encore.
Voilà. Nous, la façon dont on fonctionne, c'est vraiment, on fait ce qui s'appelle des quick wins. Donc, c'est vraiment des techniques d'innovation. C'est-à-dire que plutôt que se dire, on va faire un grand projet tout de suite qui va demander énormément d'argent, énormément de fonds, de voir bouger tout un écosystème, peut-être des systèmes Lego qui ne sont pas encore en place, etc. On va faire des sauts de puce, mais à chaque fois validés. Apprendre sur chaque chose de plus pour pouvoir se rediriger de manière vraiment très efficace. Et donc là, ce dont Jérémy parlait, ça a été, c'était pas pour nous le sujet le plus innovant en tant que tel. Ça allait, je veux dire, pour le commun des mortels, de pouvoir payer sur un terminal de paiement, mais on a une autre vision qui va un petit peu plus loin que ça. Donc ça, c'est l'intérêt pour nous, c'était Binance, c'est 65% aujourd'hui du volume de trading dans le monde en crypto. Donc c'est s'il y a un acteur
C'était le
avec qui
meilleur moyen
travailler,
d'aller toucher un maximum d'utilisateurs, en tout cas de détenteurs de
Voilà.
crypto-monnaies
En
dans le monde.
plus, chose importante pour nous, ils sont très innovants, pro-innovation, et ils ont des personnes dédiées qui sont parfaites, avec qui collaborer, en tout cas. Donc ça, c'est très important pour nous, la dynamique, l'énergie, etc.
Pardon,
vas-y.
Juste pour ajouter sur Binance. On a aussi décidé de partir avec Binance, parce que pour nous, le cadre réglementaire, enfin, étant un acteur régulé dans un monde qui est quand même assez touchy, qui est le monde des paiements, il nous fallait absolument partir avec un acteur qui était régulé en France, du moins, vu qu'on a lancé en France. Et Binance, du coup, cochait toutes les cases, si tu veux, d'un point de vue régulation. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir avec eux.
Et du coup, j'avais une question sur l'utilisation, l'adoption. Est-ce que vous avez des statistiques sur le pourcentage chez ces commerçants de paiement en crypto-monnaie?
Non, malheureusement, on n'a pas de statistiques auto-avancées. On va les avoir à la fin du coup de ce pilote, donc d'ici 4-5 mois. Mais tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que les commerçants sont ravis. C'est qu'il y a une traction sur les paiements en crypto qui est quand même existante. Et que globalement, l'expérimentation se passe bien d'un point de vue marchand, donc, mais également d'un point de vue porteur de crypto.
Alors après, pour le petit disclaimer, faut pas s'attendre à des volumes incroyables. C'est pas 7 millions de personnes qui sont venues payer dans les magasins. On a fait volontairement quelque chose d'assez discret. C'est-à-dire qu'on en a parlé de manière, oui, relativement peu. On n'a pas parlé de manière internationale. On n'est pas allé devant la presse dire, voilà, on a lancé un projet crypto, allez tous essayer, etc. C'était intentionnel parce qu'on voulait voir un petit peu la capacité de certains acteurs à bouger leur écosystème. Parce que ce qui est important dans les écosystèmes crypto, qui est très différent des écosystèmes, on va dire, plus traditionnels de monnaie fiat, c'est que tu viens avec une fanbase, tu viens avec des gens qui ont des convictions. Donc Binance a sa fanbase, son écosystème. Et donc quand on fait un partenariat avec Binance, bah, ça va motiver ces gens-là. Et c'était aussi mesurer cet impact-là. Mais faut pas oublier que le nombre de personnes qui détiennent des cryptos en France, je crois que ça se rapproche de 10% à peu
Ça,
près.
ouais, c'est ça.
Ça reste quand même encore aujourd'hui assez limité. Donc c'est bien au regard du pourcentage de la population, quoi.
Ouais. Mais comme on l'expliquait tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément très connu du grand public, donc c'est pas vers vous qu'on va se tourner pour vous dire nous on aimerait bien pouvoir payer en crypto-monnaie. Mais par exemple, Binance, qui proposait déjà ce système-là, Binance Pay, qui avait déjà travaillé avec des commerçants, est-ce que eux, quand vous les avez contactés, ils vous ont dit oui, on a eu beaucoup de demandes de la part de commerçants de pouvoir accepter les paiements en crypto-monnaie. Est-ce que il y a une vraie demande de la part de ces commerçants?
Oui, ça, concrètement, c'est assez récurrent et régulier chez eux, mais de notre côté aussi. En fait, nous, on vend principalement aux banques et ce qu'ils appellent les acquéreurs. Et donc, ça, ils ont aussi ces demandes-là qui remontent côté marchand. Et c'est vraiment de toute taille, hein.
D'accord.
Ça va de la plus grosse chaîne de supermarché
Donc,
au petit
commerçant,
marchand, commerçant
d'accord.
local.
Ok, et d'un point de vue technique, si moi je vais chez un commerçant qui accepte les paiements en crypto-monnaie, donc je vais dépenser mes crypto-monnaies, en tout cas lui envoyer, et derrière comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu un système qui fait que ça convertit automatiquement en fiat? Parce que conserver ces crypto-monnaies pendant un certain temps, connaissant la volatilité du marché pardon, pendant certains moments, ça peut être compliqué, peut-être que ça peut même comment dire, démotiver certains commerçants à pouvoir accepter ce mode de paiement-là, dû à la volatilité. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un système de transfert? Est-ce que c'est du crypto to crypto to fiat?
Ouais. En fait, tu l'as dit toi-même, enfin, le problème aujourd'hui dans la crypto-monnaie, enfin, un des problèmes, ça va être la volatilité. Donc, à l'instant T, tu peux avoir pour l'équivalent de 100 euros, mais 2 heures plus tard, ça peut valoir que 80 euros ou à l'inverse 120 euros. Et donc, aujourd'hui, la première solution qu'on a développée, c'est du crypto to crypto. Donc le client paye en crypto, le marchand reçoit l'équivalent en crypto. Sauf que sur la partie marchand, pour justement essayer de résoudre cette partie volatilité, le marchand aujourd'hui a la possibilité d'être payé avec deux stablecoins, donc l'USDT ou le BUSD. Tandis que côté client, le client peut payer avec plus de 70 crypto-monnaies qui sont aujourd'hui supportées par Binance Pay, par l'écosystème Binance Pay. Donc ça, c'est la première itération qu'on a décidé de faire, donc du crypto to crypto, pour essayer vraiment de comprendre où était la valeur et de comprendre le marché de, enfin, l'industrie et le marché crypto, qui n'est pas, si tu veux, notre marché, enfin, qui n'est pas un marché familier pour nous, Ingenico venant du coup du monde traditionnel, on va dire, du paiement. Donc la seconde itération sur laquelle on est en train de travailler, ça va être une partie crypto to fiat, comme tu le disais. Et l'idée, c'est qu'en fait, le client paye en crypto, qu'il y ait une conversion qui soit automatiquement effectuée en euros, et que du coup cet euro soit directement envoyé et que le marchand le reçoive directement en fait sur son compte en banque. Et donc ça c'est la seconde solution sur laquelle on est en train de travailler, qui est du crypto to fiat, et qui permet justement au marchand d'accepter, d'avoir tous les avantages d'accepter de la crypto-monnaie, qui sont comme par exemple de pouvoir attirer, comme le disait Romain, des fanbases. Mais tout en, si tu veux, tout en se protégeant de la volatilité des crypto-monnaies.
Et juste un point, on est vraiment dans cette idée de saut de puce à chaque fois. On fait donc là, c'est ces premières itérations, c'est validé, on a appris. Maintenant, deuxième itération, c'est celle dont a parlé Jérémy.
Et on va apprendre.
Et on va apprendre. Et ce que ce dont vous pouvez, ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est probablement multi-wallet, on-chain, off-chain, et donc capacité d'être payé soit en crypto, soit en fiat, c'est-à-dire un menu de possibilités le plus large possible. Juste un point, c'est que le fiat, enfin le off-ramp, c'est super important pour la raison principale qui est qu'aujourd'hui les marchands, si tu veux une adoption qui est beaucoup plus large que simplement les personnes qui sont déjà habituées à aller sur des crypto-monnaies, il faut que ce soit transféré en euros ou en dollars ou en monnaie locale si on veut avoir une adoption un petit peu plus large. C'est juste obligatoire et ça, c'est une remontée des marchands qui est assez claire.
Ok, là tu t'évoquais justement l'adoption. Vous, le fait que vous travaillez sur les crypto-monnaies en tant que potentiel futur moyen de paiement, ça signifie que vous le voyez justement comme une solution innovante qui pourrait peut-être disrupter aussi les systèmes de paiement actuels. Pour vous, c'est quoi les clés vraiment pour que les crypto-monnaies soient demain adoptées en tant que véritable solution de paiement un peu partout dans le monde?
Alors aujourd'hui, tu as un gros point qui est la régulation. Sans un cadre réglementaire clair, côté marchand et même côté entreprise, on va dire PS, ce qu'on appelle PSP, donc ce sont les entreprises qui fournissent des services liés au paiement à la crypto. Sans un cadre réglementaire clair, ça va être compliqué pour à la fois les marchands et ces entreprises d'aller s'aventurer justement un peu dans le Far West. Donc je pense que la première brique, si tu veux, pour qu'il y ait une adoption des paiements en crypto, ça va être justement le cadre réglementaire. Et en Europe, on est assez chanceux, j'ai envie de te dire, parce que justement, c'est la première région. Et c'est le premier continent, si tu veux, avec MiCA, qui a instauré justement un cadre réglementaire harmonisé au niveau européen. Donc ça va être la première brique. La seconde brique,
Je peux dire.
vas-y, bah, je te laisse.
Il y en a une qui est facile, ça va être en gros le momentum des cryptos. C'est-à-dire que concrètement, si demain les cours continuent de baisser ou chutent, on aura moins de chances d'avoir des personnes qui détenaient déjà des cryptos de manière spéculative. Et des personnes qui veuillent le dépenser à un moment T. C'est-à-dire que c'est très logique, hein. C'est si vous avez perdu 80% de la valeur que vous aviez, psychologiquement, vous vous dites, je vais attendre que ça remonte à 80% avant de l'utiliser pour payer. Et à l'inverse, une fois que, si jamais on repart sur un cycle haussier des cryptos, ce qui peut être fort probable, dans ce cas-là, on aura peut-être beaucoup moins de soucis à lâcher une partie de sa plus-value pour payer des choses du quotidien ou des produits de luxe ou que sais-je, si t'en as un autre.
Moi, j'en ai une troisième. Et donc, je pense qu'une troisième, si tu veux, enfin, un troisième point qui peut accélérer l'adoption des paiements en crypto, ça va être tout ce qui va être CBDC, donc les monnaies digitales émises par les gouvernements et les banques centrales. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives. Donc je crois qu'en Suède, il y avait le enfin, il y avait le e-krona, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tu as le yuan numérique également émis par la Banque centrale de Chine. Tu as l'Union européenne qui également investit l'euro digital. Et je pense que le fait que, en fait, tous ces institutionnels, ces banques centrales et que ces gouvernements, en fait, se lancent également dans des monnaies qui sont supportées sur la blockchain peuvent accélérer l'adoption des paiements crypto traditionnels comme le Bitcoin, par exemple.
J'en ai d'autres.
Allez, un autre,
Allez,
un dernier.
je dirais l'épuration de l'écosystème de manière globale, c'est-à-dire avoir des sociétés sérieuses qui vont proposer des use cases sérieux, des propositions de valeur sérieuses. Et à ça, je couplerai en fait le momentum politique va être également très important. C'est-à-dire que si on est dans un monde qui devient de plus en plus défiant vis-à-vis de certaines formes d'autorité, qui vient de plus en plus instable, naturellement, ça va favoriser l'écosystème crypto.
Et vous voyez comment l'éducation là-dedans? Parce que c'est vrai que moi, je trouve, moi j'ai une question qui revient souvent, en tout cas quand on discute avec des gens de l'écosystème, c'est des personnes qui sont un petit peu extérieures à ça, qui connaissent les crypto-monnaies bien sûr, mais qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement. Ils vont se dire, bah, voilà, crypto-monnaie, il y a monnaie dedans. Donc pour eux, bah, l'ensemble des cryptos du marché ont vocation à être des monnaies. Comment est-ce qu'on pourrait avoir à l'avenir 10 000 monnaies différentes? Comment est-ce qu'on peut l'envisager? C'est aussi peut-être à ça que tu faisais écho quand tu disais épuration du marché, un petit peu enlever aussi tout ce qu'on peut appeler ces shitcoins ou meme coins qui polluent un petit peu le marché et qui font qu'aujourd'hui on se perd face à toute cette diversité d'actifs de crypto-monnaies.
Alors déjà aujourd'hui, c'est théoriquement, purement, vraiment sur un plan de la définition, les crypto-monnaies, c'est un abus de langage, c'est-à-dire que
Bien sûr.
c'est pas une monnaie déjà,
Bien sûr.
c'est un moyen d'échange programmable, etc. Et donc sur l'éducation, ça va être, je pense, ça va être un point majeur et ça va passer par la facilité d'utilisation, c'est-à-dire est-ce que les sociétés qui amènent les personnes sur les cryptos sont capables de proposer des interfaces simples, des logiques de compréhension simples et des moyens d'échange simples, sans avoir 25 000 manipulations, 40 000 codes à valider, etc. Ça va être juste clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est donc dans ces 5 à 10% de la population mondiale qui possède des cryptos. C'est des gens plutôt qui aiment la
Technophile.
technophile, qui n'ont pas trop de difficultés à essayer de se mettre dans les détails. Maintenant, si on veut toucher le reste de la population, c'est-à-dire l'immense majorité, ça va être une logique complètement différente. C'est faciliter d'utilisation, expliquer pourquoi c'est un intérêt, qu'ils comprennent cet intérêt, et que, encore une fois, on associe ça à des choses qui leur donne une valeur perçue supérieure. Typiquement, je sais pas, associer une crypto à, je sais pas, un service de fidélité qui te donne tout de suite des points, tu le perçois directement l'utilité. Si, par exemple, ça favorise un écosystème local, parce que tu as acheté un coin local, etc., et que tu vas le dépenser, que tout de suite ça te donne 10% de pouvoir d'achat supplémentaire, là, forcément, tu vas percevoir directement la valeur et on va rentrer dans une autre logique.
En tout cas, à l'heure actuelle, la seule crypto qui est utilisée réellement en tant que monnaie, c'est Bitcoin, qui est déjà adoptée en tant que monnaie légale dans certains pays. Après, certaines autres monnaies sont utilisées pour des transferts, mais en tout cas, Bitcoin a été créé justement pour pouvoir opérer des transferts comme ça. Est-ce que c'est sur Bitcoin que vous travaillez pour vos transferts de crypto à crypto?
Déjà, c'est toutes les monnaies, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'était à peu près 5 cryptos qui font 90% du marché aujourd'hui, voire plus. Donc, on peut parler des 13 000 autres qui font moins de 10% de part de marché. L'intérêt est plus limité. Maintenant, sur le Bitcoin, j'ai quelques réserves. Pour l'instant, je ne perçois pas forcément l'utilisation du Bitcoin comme une monnaie. Pour plein de raisons, bah, la première c'est le temps de settlement, ensuite c'est la philosophie du Bitcoin qui est pour moi plus un équivalent de l'or, c'est de l'or numérique, mettons digital, avec ça s'explique très bien, c'est-à-dire que c'est fini, il y en a 21 millions, pas un de plus, donc en gros c'est inflationniste par essence. Les monnaies d'échange, plus de l'Ethereum ou alors du Bitcoin si on va sur une layer 2 avec du Lightning, etc.
J'allais justement vous questionner sur le Lightning Network parce que ça résout l'un des problèmes que tu as évoqués, à savoir le temps pour traiter les transactions. Après, Bitcoin, l'algorithme en tout cas Bitcoin, sert justement à permettre ces transferts-là. Donc il n'y a pas que le côté réserve de valeur qui fonctionne, il y a aussi le côté permettre des paiements et des transferts d'argent de pair à
Ouais,
pair,
ça fera
par
partie des
définition.
apprentissages du marché, tu vois. C'est le marché va nous faire des retours là-dessus. Si ça se trouve, nous on part toujours avec des hypothèses, on se donne complètement le droit d'avoir faux, hein. C'est-à-dire que c'est le marché qui va nous apprendre et à partir de ce moment-là, on va s'adapter, on va essayer de faire en sorte de favoriser tel ou tel écosystème ou pas d'ailleurs.
Parce que c'est vrai que parfois on voit certaines crypto-monnaies qui sont acceptées en tant que moyen de paiement. L'Ether, par exemple. Bon, bah, pour certains, l'Ether, ce sera plutôt un carburant pour faire fonctionner une blockchain, plus que, un moyen de paiement, plus qu'une monnaie. Alors que le Bitcoin, bah, a vocation justement, en plus d'être pour certains une réserve de valeur, d'être aussi une monnaie, en tout cas la monnaie de l'Internet, etc. Donc vous, en tout cas là-dessus, vous acceptez toutes les crypto-monnaies,
Ouais.
en tout cas les principales, parce qu'il y a du
Principal.
volume dessus. Et parce que les gens les détiennent et sont prêts à les dépenser aussi.
C'est ça, bah tu l'as dit, je pense qu'en fait chaque personne a sa propre philosophie par rapport au Bitcoin, par rapport à l'Ethereum et par rapport à d'autres crypto-monnaies. Donc en fait on va pas se limiter uniquement à un seul actif. Donc c'est pour ça que typiquement avec Binance Pay on a décidé du coup de travailler premier, enfin d'avoir travailler d'abord avec eux si tu veux parce que justement dans leur écosystème ils acceptaient les 70 crypto-monnaies mais comme l'a dit Romain aujourd'hui avec 5 crypto-monnaies tu couvres 90% du marché et ces 5 crypto-monnaies sont suffisantes si tu veux pour répondre aux besoins d'un paiement en crypto pour la plupart des personnes qui détiennent des
Et
cryptos aujourd'hui.
les 5, c'est stablecoin compris? On peut
Stablecoin
avoir les
compris, oui.
5
Bah, pour moi, les 5, ça va être du coup, ça va être du Bitcoin, ça va être de l'Ethereum, et ça va être si tu prends, on va dire, les deux gros stablecoins, donc l'USDT et l'USDC, et peut-être à terme un stablecoin euro,
D'accord.
l'avenir nous le dira.
Non, parce que justement, dans les volumes, on avait eu récemment des statistiques, pardon, et on voyait certains shitcoins, on l'évoquait tout à l'heure, remonter très haut dans le top. Donc je me demandais si c'était hors stablecoin dans les 5 et si on ne se retrouvait pas aujourd'hui à avoir certains shitcoins dans dans les cryptos que vous êtes obligé de supporter en paiement parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui les détiennent.
Alors, il n'y en a pas pour l'instant. Après, demain, je ne sais pas.
On
Tu
sait
sais,
jamais.
peut-être que ça peut se révéler en étant, je sais pas, les meme coins se transforment en licorne coins. Je ne sais pas. Un avenir radieux leur est promis. Que sais-je, tu
On a dérivé sur les shitcoins.
vois.
On
Ouais.
revient sur le sérieux. À part les crypto-monnaies, vous travaillez aussi donc sur d'autres systèmes de paiement innovants. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Je sais qu'il y en a certains dans la salle actuellement qui sont présents autour de nous. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner?
Oui, il y en a peut-être un qui a toujours tendance à intéresser les consommateurs. On travaille sur en fait un paiement par le schéma veineux. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre 5 millions de points en photo dans les veines de votre main. Et donc, on va associer votre moyen de paiement. Donc, ça peut être votre carte bancaire, mais ça peut également être demain un wallet crypto. Ça pose pas de problème, tout comme votre pièce d'identité ou autre. Et donc vous allez arriver au-dessus d'un terminal de paiement, vous faites juste ça, sans le toucher, et vous avez payé. C'est-à-dire que c'est extrêmement rapide,
On
vous
peut
n'avez
faire
plus besoin.
du paiement sans contact avec sa main.
C'est sans contact avec ta main, c'est-à-dire que vous imaginez si ça, par exemple, c'est le lecteur, tu fais juste comme ça, et t'as payé.
D'accord.
Le process d'enregistrement, ça dure 20 secondes à peu près. Quand tu t'enregistres une fois, tu vas même associer ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone pour vérifier que tu existes bien et que c'est pas une fraude. Ensuite, tu associes ta carte bleue, tu prends les photos de ta main et c'est fini. Et ensuite, à chaque fois, dans un magasin, tu n'as plus besoin d'aucun moyen de paiement. Tu fais juste comme ça.
Moi, j'ai une question avec ça qui me vient tout de suite en tête. Vous allez me dire, ça se trouve, c'est une question bête à laquelle vous avez
C'est
peut-être
jamais bête les
pensé,
questions, mais.
à laquelle vous avez peut-être pensé tout de suite. Mais comment on fait, par exemple, on a beaucoup de vols de cartes bancaires. Bon, c'est difficile de se faire voler sa main, mais est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va venir plaquer un terminal de paiement sur votre main ou
Non, non, mais il y a plein d'intérêts à cette solution-là. En tout cas, il y a un vrai effet waouh. Ça fait 2 ans et demi qu'on le teste un peu dans le monde entier. Et il y a quelque chose.
En tout cas, ok. Donc, mais un nouveau système de paiement qui pourrait être couplé donc avec les crypto-monnaies.
Exactement, exactement. Et donc après, il y a toute la notion qui, si on porte les choses un tout petit peu plus loin, de l'identité digitale, etc., et les moyens de s'identifier avec. Seulement si on le veut, avec des biométries, donc avec des gestes simples. Voilà.
Ok.
On peut aller assez loin dans le débat futuristique sur le sujet si ça vous intéresse. Mais...
Alors, bon, on va revenir peut-être, ou peut-être que tu avais quelques éléments de réponse à apporter.
Non, non, enfin, Romain a très bien résumé. À partir du moment où, si tu veux, tu peux lier ta paume de la main avec une carte de crédit ou une carte de débit, tu peux très bien lier ta paume de la main avec un wallet. Donc, l'idée, c'est que enfin, quand tu vas placer ta main au-dessus du capteur, au lieu que ça soit ta carte qui soit, si tu veux, appelée entre guillemets, parce qu'elle est liée à ta main, ça va être ton wallet. Donc, tu peux très bien faire des transactions en crypto avec ta main et sans wallet, du coup.
Top, très intéressant. Pour revenir sur les crypto-monnaies, est-ce que, y a, avant qu'on termine l'interview, d'autres sujets sur lesquels vous travaillez pour faire évoluer les solutions de paiement que vous proposez actuellement en crypto-monnaie? Des petites exclusivités peut-être à nous partager?
Bah, comme enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, donc on a fait, enfin Romain aussi te l'a expliqué, on a commencé sur du crypto to crypto comme un quick win pour un peu apprendre si tu veux et pour mettre un premier pas dans le monde des cryptos. On travaille actuellement sur le crypto to fiat justement pour répondre à cette demande marchande qui était que bah, j'ai envie de me protéger un petit peu de la volatilité, je ne veux pas avoir de crypto dans mon bilan comptable. Comment je peux faire? Donc c'est pour ça qu'on vient avec cette solution crypto to fiat. D'ailleurs, un pilote sera déployé sur l'année 2023, sur cette année. Et on travaille, enfin, et forcément, en fait, par rapport au retour qu'on a de la part du marché et des personnes qui utilisent la solution, on va essayer de l'améliorer. Donc on est, comme le disait Romain, en fait, c'est des sauts de puce. Donc si on apprend quelque chose de nouveau, on va essayer justement de répondre à ce besoin qu'on a pu identifier ou qu'on a pu nous remonter en y ajoutant une fonctionnalité ou en y développant une nouvelle solution. Donc pour le moment, on est sur du crypto to crypto et on se dirige vers sur du crypto to fiat. Mais demain, on n'est pas à l'abri, on va dire, d'une nouvelle innovation totalement disruptive dans le monde de la crypto.
En gros, on travaille sur ce genre de choses. On espère pouvoir vous en parler prochainement. Peut-être à un point, c'est que on va commencer avec des partenaires, puis on va creuser de plus en plus dans la chaîne de valeur pour faire les choses par nous-mêmes. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour votre temps. C'était extrêmement intéressant. On a appris beaucoup de choses. On a hâte de voir dans quelle direction ça va aller. Et puis ben, on peut se revoir dans quelques mois quand vous aurez lancé ça. Peut-être quand vous aurez réussi à lancer ce système de paiement biométrique en crypto-monnaie. On en reparlera à l'occasion.
C'est peut-être en cours.
Merci beaucoup pour votre temps.
Avec plaisir.
À bientôt.